ici David Chemla sur Radio Shalom pour notre nouvelle édition de Chronique pour la paix. Cette semaine, nous avons le plaisir d'avoir à l'antenne M. Jacques Bandelac qui est à Jérusalem. M. Bandelac est un chercheur en sciences sociales que l'on interviewe souvent sur notre radio et qui publie de nombreux ouvrages. Son dernier ouvrage paru, c'est en 2022 aux éditions L'Harmattan, Les années de Netanyahou, le grand virage d'Israël. Donc, bonjour Monsieur Bandelac.
Oui, bonjour David.
Voilà, donc on a voulu faire cette émission suite à un article, notamment vous avez publié récemment dans le Nouvel Observateur, sur la situation économique en Israël. On parle beaucoup de la problématique politique, du conflit, cette guerre qui arrive bientôt, non pas fêter, mais marquer son premier anniversaire, dont on ne voit pas l'issue d'ailleurs. Mais on parle beaucoup moins de la situation économique du pays, aussi bien pour les populations israéliennes, et évidemment, on en parlera aussi sur la situation dans les territoires occupés de Cisjordanie. Alors, je voulais donc vous questionner là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que les prix montent beaucoup, que Israël a beaucoup de mal à financer son budget, est en déficit, que la guerre coûte très cher. L'estimation donne entre 200 et 300 milliards de shekels pour l'année 2023. Comment va-t-on faire pour construire un budget en Israël? Est-ce que c'est possible? Et quels sont les choix de ce gouvernement?
Alors écoutez, l'économie israélienne est totalement à l'arrêt depuis le début 2024, hein, puisque les derniers chiffres publiés il y a quelques jours montrent que le PIB du deuxième trimestre a augmenté de 0,7%. Par habitant, c'est une baisse de 0,9% du PIB. Hein. C'est une baisse qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Donc l'économie israélienne s'enfonce dans la récession parce que l'économie a du mal à se remettre de cette guerre qui, effectivement, coûte très cher. Hein. Alors, comment est-ce qu'on finance une guerre? Généralement, on prend l'argent là où il se trouve. Or, là, on a l'impression qu'on ne prend pas vraiment l'argent où il se trouve. On prend l'argent en fonction de l'idéologie dominante de ce gouvernement, qui est un gouvernement donc très à droite, un gouvernement très, très libéral, et qui donc, même en temps de guerre, agit par libéralisme économique, c'est-à-dire essaye de dépenser le moins d'argent possible, essaye de ne pas augmenter les impôts, continue de privatiser autant qu'on peut. Et donc, dans ce contexte-là, c'est très difficile de faire un budget qui tienne debout, aussi bien pour 2024 que pour 2025, et qu'on a un gouvernement, finalement, un ministre des Finances, Smotrich, qui laisse filer le déficit parce qu'il n'a pas, il ne prend pas le temps, le moyen pour le financer. On a un déficit en 2024 qui dépasse les 8% du PIB. 8,6% vu d'Europe, c'est une proportion très grave de ce déficit parce que on refuse d'augmenter les impôts, on refuse de couper les dépenses là où il le faut. Et donc, oui, on a une économie qui est en train de perdre sa stabilité financière, qui est en train de s'enfoncer dans la récession. L'Israélien en paye de sa poche parce que la principale conséquence de tout cela, c'est l'inflation qui rebondit, hein, 3,6% en rythme annuel d'inflation. Hein. Donc le coût que l'Israélien paye à la guerre, c'est la baisse de son niveau de vie, la baisse de son pouvoir d'achat. Hein. C'est ça ce que l'on voit tous les jours. Et ça, on n'en parle pas tellement parce que c'est vrai qu'on est plus occupé par les otages, par la guerre et que l'économie vient après. Et bien, c'est dommage. Hein. L'économie va mal en Israël en 2024.
Elle va mal, mais c'est aussi un choix politique, comme vous l'avez dit. Vous parliez tout à l'heure des privatisations. On ne se rend pas compte ici en France qu'il y a quand même un État où il y a une certaine nombre de services publics qui sont étatisés, qui sont assurés par l'État. Et d'après ce que je vois en Israël, il y a des projets même de privatiser la poste.
Ce qui est inimaginable ici. Absolument, ce ne sont plus des projets, parce qu'en Israël, on a déjà privatisé toutes les entreprises économiques, et donc maintenant, on commence à privatiser les services publics. Donc on a privatisé en mai la poste israélienne n'appartient plus à l'État, elle appartient à la famille Veil, qui est une grande famille financière du pays, donc ça a été privatisé. On a privatisé le mois dernier la distribution d'électricité, donc on peut aujourd'hui acheter de l'électricité en privé. On est en train de privatiser privatiser le port d'Ashdod. On va le vendre à un empire indien. On est en train de privatiser, alors là c'est très étonnant, les industries aéronautiques qui fournissent quand même pas mal d'armes et d'aéronautique à Israël. Donc on privatise vraiment tous les l'État est en train de se débarrasser de ses services publics et ça c'est très grave parce que c'est l'Israélien qui va en payer le prix.
Et pas seulement ça, il vend ce qui appartient à tout le monde. C'est-à-dire que c'est les bijoux de la famille quoi, qu'ils sont en train de vendre. Pour financer
absolument.
Leur budget, quoi.
Absolument, voilà. Alors, on cherche de l'argent, alors on privatise, parce que dans la logique libérale, l'État doit intervenir le moins possible dans l'activité économique, hein, et donc on se débarrasse de tout ce qu'on peut se débarrasser. Hein. Et donc, effectivement, on est en train de perdre petit à petit. On a lancé la vente, il n'y a pas très longtemps, des industries militaires Rafael, hein, qui sont quand même le fleuron de l'industrie israélienne. Eh bien, ça va être aussi vendu. Donc vraiment, le service public est réduit à un service minimum.
Et en plus, vous parlez de Rafael, vous de l'aéronautique, c'est stratégique parce que imaginons que pour une raison X, les nouveaux propriétaires aient d'autres choix idéologiques par rapport à la gestion de ces entreprises, ça peut toucher à la défense d'Israël, quoi, la défense du pays.
Sans aucun doute, hein, sans aucun doute. C'est là qu'on commence à se rendre compte qu'on exagère un petit peu, mais effectivement, de très nombreux aspects de la défense de Tsahal est privatisé. On a privatisé les cuisines de Tsahal, on a privatisé les services médicaux de Tsahal, et maintenant on va privatiser aussi les industries militaires. On a voulu privatiser les prisons aussi. Vous savez, c'est un petit peu le phénomène qui se passe aux États-Unis.
Oui.
Mais ici, on va jusqu'au bout. Hein. Comme on est un petit pays, donc ça se fait ressentir très, très rapidement dans la vie quotidienne.
Mais alors, toutes ces coupes budgétaires qui sont faites dans le social, elles ne sont pas faites pour tout le monde de la même façon, parce que parallèlement, toujours pour des questions politiques, les subventions pour gérer toute la frange orthodoxe du pays qui a des besoins pour ses écoles, ses circuits sociaux, etc., sont maintenues.
Absolument. Le libéralisme fait qu'on dépense le moins d'argent possible, mais jusqu'à une certaine limite. Alors, on dépense le moins d'argent possible parce qu'on a coupé très sèchement cette année et l'année prochaine dans les budgets sociaux, dans les allocations sociales, dans le salaire des fonctionnaires, toutes les dépenses civiles ont été coupées par des coupes transversales de 5%, donc tout le monde en a payé le prix, l'éducation, la santé, etc. Donc vraiment, le moins de dépenses possible. Mais lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle ici les dépenses politiques, les budgets politiques, alors là, on dépense sans compter. Hein. Ça veut dire à la fois les budgets aux religieux, aux ultra-orthodoxes, aux charizim, les budgets pour la colonisation, tout ça sont des budgets qui non seulement n'ont pas été coupés, mais sont amplifiés de mois en mois. Donc, le libéralisme économique, d'accord, mais à condition qu'il ne touche pas aux dépenses politiques qui sont fortement augmentées par ce gouvernement, donc très, très à droite. Hein.
Oui, dont Netanyahou a besoin de leur participation et de leur soutien pour maintenir cette coalition au pouvoir, et en contrepartie, ils ont leurs exigences.
Absolument, le Netanyahou a besoin, pour sa survie politique, de s'associer à cette coalition, de leur soutien jusqu'à la fin 2026, donc on a encore 2 ans, et donc il ferme les yeux sur des décisions que lui-même n'aurait sans doute pas prises, parce qu'elles sont anti-économiques, mais qu'il accepte justement pour pouvoir se maintenir au pouvoir dans le cadre de cette coalition qui finit par coûter très cher à l'Israélien, sans aucun doute.
Alors, il y a un autre aspect qui est aussi moins connu, c'est par rapport à l'autorité palestinienne. Israël, vous l'expliquerez mieux que moi, gère pour l'autorité palestinienne la TVA qu'elle doit lui restituer. Or, aujourd'hui, ils ont bloqué, je crois, cette restitution. Qu'est-ce qui se passe exactement ?
Oui, depuis l'entrée au pouvoir de ce gouvernement, et donc depuis que le ministre Smotrich est devenu ministre des Finances, il a pris le temps. Vous savez, le ministre des Finances, Smotrich, n'est pas seulement ministre des Finances. Hein, il a obtenu de Netanyahou un autre ministère, qu'on ignore souvent, mais qui est le sien. Il est ministre en charge de la coordination des actions du gouvernement en Cisjordanie. C'est-à-dire qu'il a carte blanche pour faire ce qu'il souhaite faire dans les territoires palestiniens. Et une des premières mesures qu'il a prises déjà il y a un an et demi, c'était effectivement de saisir les recettes fiscales qu'Israël prélève pour l'autorité palestinienne, TVA et droits de douane, puisque les marchandises passent par Israël avant de rentrer en Palestine. Et donc, il a décidé de saisir ces recettes fiscales, de ne pas les verser à l'autorité palestinienne, pour toutes sortes de raisons dont on ne va pas rentrer, mais qui fait que ça coûte cher à l'autorité palestinienne, parce que c'est quand même une source importante de leurs revenus, et ça permet à Smotril de trouver subitement quelques milliards supplémentaires pour financer ses dépenses dans les territoires, sans être obligé de couper ailleurs, vous voyez. Donc il y a véritablement de l'argent politique qui est utilisé pour financer les implantations juives dans la Cisjordanie.
Mais là, il ne s'agit pas d'argent entre guillemets juif, c'est de l'argent qui revient aux Palestiniens de plein droit. Théoriquement, enfin, on ne peut pas développer des projets en Israël avec cet argent-là, théoriquement. On doit à un moment ou à un autre le restituer.
Absolument, non. C'est tout à fait illégal aux yeux de international. Hein. C'est de l'argent qui appartient aux Palestiniens. C'est de l'argent qui, selon les accords de paix de 1993, sont prélevés par Israël, mais qui doivent être reversés immédiatement aux Palestiniens parce que ça leur appartient. Et se saisir de cet argent-là est tout à fait, pas seulement immoral, mais illégal, parce que c'est de l'argent qui n'appartient pas à Israël et qui a créé ici et là un petit peu de tollé international, mais sans doute pas suffisamment, parce que Smotrich s'entête à... Vous savez, il a pas encore préparé la loi de finances pour 2025, mais il trouve le temps pour saisir les recettes fiscales de l'autorité palestinienne. Ça montre bien, si vous voulez, quelles sont les motivations qui sont à l'origine de cette politique.
Et qui contribue à un ressentiment de plus en plus grand dans les territoires et qui alimente la violence en cours auquel on assiste.
Absolument, d'autant plus qu'en tant que ministre en charge de la Cisjordanie, eh bien, il a fait voter il y a quelques semaines la saisie de 1200 hectares de terre en Cisjordanie. Il a fait voter par le gouvernement israélien la légalisation de 5 colonies sauvages. Il fait voter régulièrement l'augmentation des budgets des implantations. Ça, pour ça, il trouve l'argent. Hein. Donc, il y a une politisation des finances publiques dans le sens où Smotrich le veut. Et comme on vient de le dire, il est sûr de lui, puisqu'il ne pourra pas mettre mis à la porte parce que Netanyahou a besoin de lui, eh bien, il en profite tout à fait largement. Et la colonisation... elle va en s'accélérant depuis ces deux dernières années, sans aucun doute.
Précisons pour nos auditeurs que ce qu'on appelle colonie sauvage, c'est une colonie qui a été créée, une implantation qui a été créée, non pas par le gouvernement, mais par d'initiatives, je dirais, partisanes de secteurs politiques d'Est israélienne, de gauche Mounim, ou de ce qu'il est devenu, ou de la droite israélienne. Elles ne sont pas légales au regard même de la loi israélienne.
Absolument, absolument. C'est très bien, vous avez très bien défini ça, oui.
Voilà. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est non seulement à droite toute pour la politique dans les territoires, mais à droite toute pour l'économie. Quoi. C'est la marque de ce gouvernement qui a des conséquences sociales de plus en plus fortes sur la société israélienne, quand on pense à la population qui a été déplacée du nord ou du sud et qui ont besoin de ces subventions pour faire face à leurs frais quotidiens puisqu'ils ne peuvent plus rentrer chez eux.
Oui, absolument. Vous savez, toute politique libérale, toute économie libérale coûte cher aux plus pauvres. Hein. C'est-à-dire que ce sont les pauvres qui finissent par payer, les écarts sociaux se creusent. Et en temps de guerre, on aurait eu besoin d'une économie, d'une politique beaucoup plus interventionniste. Et là, comme on s'entête à mettre en œuvre une politique très libérale, eh bien oui, finalement, ce sont les pauvres qui payent le prix de cette guerre, parce que cette guerre, elle se traduit par une baisse des pouvoirs d'achat, une baisse des allocations, des salaires réels. Donc, c'est vraiment aucune justice sociale hein, qui prône dans ce ce gouvernement, mais au contraire une volonté de laisser les riches s'enrichir et de laisser les pauvres s'appauvrir.
Voilà, bah écoutez, c'est sur ces tristes mots qu'on va être obligé de se séparer. Monsieur Mandelac, merci pour cet éclairage. En espérant pour l'année qui s'approche que, comme on dit, que l'année qui parte avec toutes ses malédictions et que la nouvelle année arrive dans quelques semaines avec toutes ses bénédictions et que parmi ces bénédictions, on espère d'abord le retour des otages, c'est prioritaire, et un cessez-le-feu qui pourrait mener à l'apaisement déjà de la région, ce qui malheureusement pas semble être le cas pour l'instant, mais en tout cas le pays en a besoin et aussi pour toutes les populations des pays juifs ou palestiniennes dans les territoires. Merci.
Merci
à vous. Au revoir. Ici, donc, Radevitch est là pour cette émission de Chronique pour la paix. À dans 15 jours.